Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le mardi 7 décembre et je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle émission où on va parler aujourd'hui d'un drôle de camion qui vous permet de en tout cas être comme derrière, je vais y arriver décidément. Allez, c'est mardi, on y va, c'est parti. Vous imaginez peut-être derrière un tracteur ou en tout cas ou à faire des métiers dans la forêt au niveau agricole. En tout cas là ça va être possible grâce à toute une animation qui est organisée dans le centre-ville lavallois. Ce sera Andy qui allait voir justement à quoi ça ressemble et qui va nous en parler tout à l'heure. Et puis on va aussi parler d'une association de danse Top Brésil qui vous le verrez. Il y a des cours de danse, bien sûr, mais il y a aussi tout l'accompagnement à côté. Et il parle de vraies familles, ce n'est pas pour rien. Ça, c'est ce qu'on va entendre dans l'émission. On verra aussi, bien sûr, cette fois, enfin, et oui, je vous l'avais promis hier, on n'a pas eu le temps de le passer, mais cette fois, ce sera bon. Le premier épisode du feuilleton autour de la Compagnie des Deux Rives, compagnie de théâtre de Château-Gontier, la plus ancienne, toujours en activité. Mais d'abord, on va faire un petit point autour de l'actualité. Eux aussi pourront recevoir leur première dose. Les enfants âgés de 5 à 11 ans exposés à des formes graves de Covid pourront se faire vacciner dès le 15 décembre. Autre annonce du Premier ministre Jean Castex hier soir, le protocole dans les écoles est rehaussé au niveau 3, ce qui signifie que le masque est obligatoire en intérieur comme en extérieur et qu'il va falloir limiter les brassages par classe pendant la cantine. Et puis parmi les annonces aussi du Premier ministre, les discothèques qui fermeront pendant 4 semaines à partir de vendredi. Les établissements seront accompagnés par l'État pendant cette fermeture. Pour le reste, surtout des indications au télétravail pour les entreprises qu'ils peuvent et à lever le pied dans ces interactions sociales pour tenter de limiter cette cinquième vague. Des conditions de travail dignes pour les travailleurs et les personnes accompagnées. C'est l'une des revendications des travailleurs sociaux et médico-sociaux selon la CFDT Interco. Le syndicat appelle en ce moment même à rassemblement devant l'hôtel du département. D'après le syndicat, les agents et salariés du social sont méprisés. Ce n'est pas acceptable. Ils demandent au département de mettre des moyens humains et financiers, de rendre attractif le métier et demandent aussi une revalorisation salariale. Améliorer l'accès aux soins des demandeurs d'emploi, c'est le principal objectif de la convention signée hier entre l'assurance maladie et Pôle emploi en Mayenne pour lever les freins au retour à l'emploi à cause d'une santé dégradée. Les agents des deux structures s'engagent notamment à sécuriser le parcours des assurés qui risquent de décrocher professionnellement. Et puis à Laval, le musée vivant de l'école publique se met à l'heure de Noël avec un atelier de broderie sur papier pour faire une jolie carte de Noël. Ce sera demain à 16h. Atelier accessible dès 6 ans sur inscription. À musée.école.public@gmail.com. Même adresse si vous voulez vous inscrire à l'atelier écriture carte postale en fin d'année pour faire cette carte. Évidemment, on est sur le musée de l'école publique, donc musée d'antan, écrite au porte-plume et à l'encre violette. Ce sera mercredi 15 à 16h. Et puis, comme je vous le disais il y a quelques minutes, vous l'avez peut-être déjà repéré, un drôle de camion qui s'est installé dans le centre-ville lavallois. Et Andy est allé y faire un tour. Bonjour Andy.
Bonjour. Et oui, le camion de l'aventure du vivant est de passage au square de Boston à Laval. Je suis d'ailleurs allé à la rencontre des intervenants et notamment de Claire, une animatrice qui nous présente ce camion.
Alors la tournée, elle avait commencé en 2020, en février, mais elle avait dû être arrêtée à cause du Covid. Donc là, c'est la première vraie tournée depuis septembre 2021 qui se fait. Donc le camion, c'est il sillonne la France pour présenter les métiers liés à l'agriculture, mais aussi la forêt, l'aménagement du paysage, la protection de l'environnement, les animaux. Donc soit on a des classes et on leur présente tout ça, donc souvent des 4e, 3e, soit on est ouvert au grand public aussi pour présenter toutes les formations qui existent. Donc on a une première salle qui est très interactive en fait pour les jeunes. Donc on a un simulateur de conduite de tracteur avec un petit parcours d'obstacles et une remorque. Les gens viennent souvent pour le simulateur, c'est un peu la star du camion. On a des lunettes de réalité virtuelle qui présentent des métiers liés à l'aménagement du paysage justement. Donc on est avec des jeunes en formation, en immersion. Et après on a toute la documentation. En général, à partir de 17h, on est ouvert au grand public jusqu'à 18h. Après, nous, on vient discuter et on veut vraiment déconstruire les clichés comme quoi c'est que l'enseignement agricole, c'est que l'agriculture. En fait, non, il y a plein d'autres choses aussi.
Ce camion peut être un super endroit pour découvrir certains métiers et certaines pratiques, autant pour des personnes découvrant le milieu que pour des étudiants en lycée agricole. Benoît Jacquemin, l'autorité académique pour l'ensemble de l'enseignement agricole, était sur place. Et il y voit plusieurs intérêts.
C'est faire connaître les métiers de l'enseignement agricole, des métiers qui sont très souvent en tension, où les professionnels ont du mal à trouver des personnes prêtes à prendre les emplois qui sont proposés, faute en fait de connaissances, c'est-à-dire que les jeunes élèves qui sont en collège ou en lycée ne connaissent pas trop toute la richesse proposée par l'enseignement agricole, la richesse qui permet d'accéder à des métiers de l'agriculture, de l'agroalimentaire, du service à la personne, de la forêt, tout autour de l'alimentation.
Et certains établissements mayennais sont déjà inscrits pour participer aux animations proposées, et notamment l'Agricampus de Laval, son directeur Patrick Delage.
De chez nous, deux classes vont venir mercredi. Ce sont des classes qui sont en formation dans le domaine du cheval. Et comme il y a l'IFCE, l'Institut français du cheval et de l'équitation, qui est là mercredi, qui participe à l'animation sur le camion, voilà, on voulait leur permettre de participer à cette animation. Alors en tout, il y a 7 groupes différents qui vont participer aux animations qui sont prévues sur le camion.
Toutes les animations sont donc ouvertes au grand public, entre 17h et 18h aujourd'hui et demain pendant l'après-midi au Square de Boston.
Merci Andy, on a bien noté en tout cas toutes ces informations et donc ce camion avec tous les outils modernes pour découvrir ces métiers autour de l'agriculture, de la forêt et plus globalement un métier en extérieur en relation avec la nature. Merci beaucoup pour ce premier reportage et Andy, je ne t'ai même pas présenté mais on va t'entendre un petit peu plus tard puisque tu es notre nouveau venu dans l'équipe, notre service civique pour la saison. Donc évidemment, c'est la première mais certainement pas la dernière fois que vous entendrez Andy dans cette émission. On va faire une petite pause en musique avec The Fratellis, Six Days in June, et on revient juste après pour entendre, pour découvrir ou redécouvrir, peut-être pour ceux qui connaissent déjà, l'association Top Brésil. In June dans la JT du local sur l'autre radio. Là aussi, eux aiment bien se défouler, mais aussi prendre confiance en eux et progresser. C'est en tout cas ce que permettent les cours de danse de l'association Top Brésil, association créée à Laval il y a une quinzaine d'années. Les cours se sont même poursuivis à distance pendant le confinement. Évidemment, Vanessa, la professeure de danse et créatrice de l'association, a retrouvé avec bonheur ses élèves, parmi lesquels Gladys. On écoute leurs témoignages pour nous présenter vraiment toutes les dimensions de cette association Top Brésil.
Bonjour, je m'appelle Vanessa, je suis prof de danse de l'association Top Brésil. L'association Top Brésil, ça fait 15 ans qu'elle est en France, en Laval surtout. Et on propose des cours de danse pour tout âge. À Laval, c'est tous les vendredis soirs de 18h à 20h et de 20h à 22h.
Peut-être revenir déjà, vous disiez, sur la création de Top Brésil. C'était il y a 15 ans oui. Ici à Laval. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à créer ces cours et cette compagnie ?
Moi, ça fait 22 ans que je suis en France. Et dès le début, dès les premières années que j'étais en France, avant, j'ai été présidente d'une association de capoeira. C'est un sport de combat brésilien. Et mon objectif, ça a toujours été de partager ma couture, en fait. C'est vrai que quand on est étranger, parfois, on a beaucoup la nostalgie de pays. Et que moi, j'ai pas cette nostalgie-là. Je me suis vraiment très bien intégrée. Et je vis très bien ici, sans ce manque. Parce que justement, je ramène ma couture, en fait. Et je la partage avec tout le monde.
Alors, comment vous êtes passée, du coup, de la capoeira à la danse ?
Tout est lié. Tout est lié parce que la capoeira, c'est un sport de combat caché sur des mouvements de danse. Et du coup, on proposait des cours. Il y en a toujours le groupe de capoeira, il existe toujours à Laval d'ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est un autre président parce que moi, j'ai arrêté la capoeira justement pour ouvrir la danse. Mais tout est lié, c'est lié à la danse, le sport, la culture brésilienne.
Donc forcément, ce sont des danses brésiliennes. Qu'est-ce qu'on peut justement expérimenter ? Qu'est-ce qu'on peut danser dans vos cours ?
Alors, les cours, c'est mixte au niveau des styles de danse. On essaie de faire un petit peu tous les styles qu'on peut trouver au Brésil. On a la samba, bien sûr. On a le haché. Le haché, c'est comme la zumba. C'est la zumba brésilienne. Nous avons aussi le forró. C'est une danse de couple. Un peu comme la salsa. J'essaie de trouver des mots, des autres danses que les Français puissent comprendre un peu mieux. Après, nous avons aussi le frevo, qui c'est une danse plus traditionnelle. On a le maracatu, on a le funk brésilien, qui est beaucoup répandu au Brésil aujourd'hui. Et voilà, nos danses, nos chorégraphies, elles sont beaucoup de funk brésilien aussi.
Donc un joyeux mélange, j'imagine, de toutes ces danses-là aussi.
Voilà. C'est exactement ça, c'est beaucoup de mélange. Et toutes les danses, elles sont très sportives, assez dynamiques. Et ça fait pas mal travailler le corps, mais aussi l'état d'esprit, en fait. Parce que ça ramène de la joie, de la gaieté, de la confiance en soi. On travaille énormément de choses avec la Top Brésil, en fait. On a cette idée d'apprendre la danse, mais pas que. C'est l'acceptation de soi. Voilà. Ils ne vont pas venir que pour faire du sport ou de la danse, tout simple. Je prépare toujours mes élèves comme s'ils allaient devenir des danseurs professionnels. Peu importe leur niveau, je les apprends à se tenir sur une scène, à avoir la posture, à lever la tête, à avoir un regard vers le public, à apprendre à sourire quand ils dansent. Du coup, tous ces changements de posture, ça travaille aussi leur personnalité automatiquement. Voilà. C'est de l'expression corporelle et de toute façon, la posture qu'on a vis-à-vis de notre corps va influencer directement au comportement qu'on va avoir envers la société, bien sûr.
Et ça, vous le voyez, vous avez vu des élèves qui se sont complètement transformés ?
Énormément, énormément. D'ailleurs, si les gens ils veulent essayer de voir comment ça se passe, sur le site, sur Google, en fait, qu'on attrape au Brésil, il y en a beaucoup des élèves qui ont mis des... Alors, ils ont donné leur avis, ils parlent de ça. La plupart, ils parlent que... En fait, ça fait déjà 15 ans, j'ai vu passer des adolescents très complexés, qui n'acceptaient pas leur corps, et même des adultes, des mamans, et qui ont changé complètement, et qu'aujourd'hui, ils me disent encore, je ne sais pas, qu'est-ce que ce serait de moi si je ne t'avais pas connu, parce que vraiment, je n'étais pas bien dans ma peau, je ne m'acceptais pas, et tout a changé avec la danse, quoi.
Et vous aussi, Gladys, du coup, vous, depuis le début, vous avez commencé les cours, vous sentez ce bien-être, vous sentez la différence?
Oui, vraiment, j'ai senti un grand bien-être et ça m'a même aidé à m'être à l'aise. J'étais pas forcément bien dans ma peau avant parce que j'avais un peu plus de surpoids, j'ai fait un bypass et depuis que j'ai connu l'Opto Brésil, j'ai pu en parler beaucoup avec Vanessa, me confier et vraiment ça m'a aidé et j'ai pu aller de l'avant et réussir le challenge de m'accepter tel qu'est mon corps et l'aimer comme je suis, vraiment.
Et comment est-ce que vous êtes venu à Top Brésil? Qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui vous plaisait?
Ce qui me plaisait, c'est que j'ai été pas mal parfois de démos, de spectacles aussi, que tous des mots autour de la Mayenne. J'étais parfois des occasions où j'étais là, ils étaient là aussi. Et voir aussi le spectacle, le travail qu'ils font les danseurs avec Vanessa, vraiment, c'est vraiment beaucoup de travail. On comprend la dynamisme et puis on a une sensation dans le groupe d'être une famille. Et c'est très important et on est très à l'écoute. C'est rare dans les groupes de danse qu'on a cette particularité d'être famille, et d'être à l'écoute, d'aider les uns et les autres aussi. C'est ça qui, avant tout au Brésil, même si la danse nous apporte beaucoup de bonheur. Et merci Vanessa encore.
Merci. Vous êtes attentive, j'imagine, à cet état d'esprit aussi. Vous disiez tout à l'heure que tout le monde est le bienvenu, qu'on soit danseur ou pas danseur du tout.
Oui. C'est-à-dire qu'on a, moi j'ai un groupe des élèves plus anciens et d'ailleurs ce groupe-là, la plupart ils font partie de la compagnie, ils sont des danseurs semi-professionnels déjà, ils commencent à travailler avec ça et c'est vrai que j'ai réunion régulièrement avec eux et c'est pas que pour préparer des chorégraphies, c'est aussi pour toujours les préparer et les apprendre comment accueillir les nouveaux élèves et de travailler parce qu'on a déjà, bon, comme tout groupe, on a déjà eu des problèmes, des histoires, et à chaque fois je reprends le groupe, j'en parle, je parle de l'importance du respect de l'autre, d'accepter l'autre comme il est, de toute façon chez nous il n'y a même plus de critiques vis-à-vis d'apparence, de corps, des habits, ça n'existe plus en fait, c'est radié complètement du groupe en fait. Et au début, oui, au tout début, maintenant on n'a plus. De toute façon, je n'ai jamais accepté. Du coup, avec le temps, comme on a beaucoup d'anciens maintenant, eux-mêmes, ils montrent le comportement aux nouveaux qui arrivent. Et c'est automatique. Et de toute façon, quelqu'un qui n'est pas dans cet état d'esprit, il ne reste pas dans le groupe. Ça nous arrivait déjà. Et la personne ne reste pas parce qu'elle ne se retrouve pas, en fait.
Et donc, vous parliez justement des danseurs qui ont commencé par les cours, qui maintenant font partie de la compagnie. Comment ça se passe, la compagnie donc, qui fait des spectacles un peu partout, en Mayenne et en France, d'ailleurs?
Oui, même en Suisse.
Même en Suisse.
Oui, régulièrement. Alors la compagnie, c'est un groupe d'élèves. Aujourd'hui, ils sont à peu près une vingtaine. Et il y a deux possibilités de rentrer à la compagnie. Oh, vous êtes vraiment très bon. Et du coup, vous êtes sélectionné assez rapidement pour rentrer. Et là, c'est logique parce que c'est une question technique. En fait, la personne a de la technique au niveau de la danse. Du coup, elle la rentre rapidement. Et quand la personne a de la technique, elle peut rentrer dès la première année de cours. Après, si c'est des personnes qui sont tout débutants dans la danse, il faut qu'ils ont un an et demi, deux ans de cours. Et après, même si moi, je n'invite pas, parce que ça m'arrive d'inviter des gens pour venir faire partie de la compagnie, tout le monde sait qu'au bout de deux ans de danse, ils ont le droit de demander de venir de rentrer. Et c'est accepté d'office, personne n'est refusé. Voilà. Après, je suis très exigeante. Il n'y a pas beaucoup, on est 20. On pouvait être plus. Parce que c'est facile de rentrer, c'est pas compliqué. Par contre, je suis très exigeante au niveau du travail. C'est-à-dire qu'ils ont, normalement, on a deux heures de cours par semaine ouvert à tout public. La compagnie, ils vont travailler minimum 6 heures par semaine. Et il faut être bon élève, avoir des bonnes notes. Il y a d'autres choses que je suis très exigeante. Un exemple, je sais que mes élèves de la compagnie, il faut qu'ils soient, sauf bien sûr cas major, mais il faut qu'ils soient un élève, vous allez peut-être trouver bizarre, je peux expliquer après, mais j'accepte pas un exemple qu'un élève qui est dans la compagnie, il parle mal à ses parents. Il insulte ses parents, il dispute ses parents. C'est impossible. Le respect pour faire partie de la compagnie, c'est très 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 important. Vraiment très important. Voilà. Et là, vous me dites, c'est peut-être pas de mon ressort, mêlé dans la famille de danseurs. pas de mes élèves tout public. Par contre, la compagnie, oui, parce qu'ils sont beaucoup de temps avec moi. Et pour moi, c'est important que ça soit dans une ambiance vraiment de bienveillance et de respect. Et je pense que je contribue à leur formation, surtout ceux plus tout le public que la compagnie, beaucoup plus. Je contribue à leur formation de cette manière aussi. Voilà.
Puisque vous dites donc leur formation, c'est qu'ils sont jeunes aussi, ces danseurs, ils ont quel âge à
peu près ? Et tout âge. J'ai des jeunes, mais j'ai aussi des mamans de 40, 50 ans ouais, qui font partie de la compagnie.
Tout âge. Alors, vous, Gladys, vous êtes arrivée depuis pas si longtemps que ça. Est-ce que ça vous intéresserait ensuite d'intégrer la compagnie, justement,
oui,
et de vous y mettre encore plus ?
Oui. Ben, du coup, il y a encore de la progression à faire encore avant de rejoindre la compagnie, je sais très bien. Sinon, au-delà, j'adore la danse, en fait, j'ai toujours été passionnée de danse depuis tout petite et j'ai fait différentes danses et tout ce que j'ai fait comme danse, hein, franchement, temps brisé, c'est là que je me suis sentie le mieux. Et la danse préférée, je crois que c'est la nouvelle qu'on a fait la semaine dernière avec la musique de Jesse Matador, d'ailleurs. Et c'est beaucoup de travail aussi, beaucoup de travailler. Mais sinon, il y a aussi Albana, que j'adore beaucoup.
Pendant des années, là, cette année, j'ai arrêté. Après l'histoire de Covid, l'année dernière, j'ai arrêté les cours avec la danse adaptée. C'est-à-dire que j'ai travaillé beaucoup avec le Foyer Thérèse Vol, l'association Adapte pour moi, et avec des élèves qui sont porteurs de handicap, moteurs, parfois intellectuels. Et mental. C'est vrai que il y en a de la progression. Et pourquoi je parle de mes élèves porteurs d'handicap, c'est parce que là, la progression, elle est encore plus marquante, en fait. Oui, parce que quand je parle de travail qu'on fait, que c'est pas qu'un travail physique, mais c'est aussi un travail qui va travailler avec la personnalité de la personne et le regard qu'elle a d'elle-même et du monde. C'est un exemple, j'ai dans mes élèves porteurs d'handicap, j'ai des élèves qui ne pouvaient pas être au milieu de la foule. Ils faisaient des crises de panique. Et au carnaval, 10 000 personnes, ils défilaient. Faites de la musique, c'est Pascal, je vais dire son prénom, c'est parce qu'il était avec nous. Fait de la musique avec plein de gens autour de lui. Et c'était des choses qu'au début de la danse, c'était impossible pour lui, en fait. J'ai une autre élève, un exemple, qui, elle rigolait jamais. Elle riait jamais. Elle avait aucune expression. On parlait avec elle, elle répondait pas. Elle venait à la danse parce que, au fait, Thérèse Vol, un exemple, c'est libre, c'est ouvert. Les gens y participent s'ils ont envie. Et, elle venait à la danse. Elle dansait, mais aucune expression. Et au fil des années, au bout de 3 ans de danse, elle a commencé à discuter, à parler avec les gens, à rire. Et tout ça, c'est des retours, parce qu'on fait des rendez-vous, des bilans tous les ans, qu'on a. Mais on parle de porteurs d'handicap, mais on a aussi tout public, c'est pareil, l'évolution, elle est flagrante. Ouais.
Vous parliez de ces cours-là, cours que vous assuriez jusqu'à présent, et là vous êtes en train de passer la main à votre fils, c'est ça ?
Exactement. J'ai déjà 45 ans, je ne vais pas pouvoir faire ça toute ma vie parce que c'est assez physique quand même. Avant le confinement, en mars 2019 je crois, en mars 2020, oui c'est ça, je faisais des cours tous les soirs. Tous les soirs, on faisait plusieurs villes, il y avait Laval, Pomain, Ernée, et on avait Rouillé-Fanfon, on a fait aussi à Rennes, voilà. On a fait plusieurs villes et c'était toujours moi. Alors, il y avait des placements et à chaque fois, c'était 4 heures de cours par jour. Bon, j'étais en pleine forme. Mais avec le confinement, ça m'a fait arrêter un peu et de prendre d'autres chemins parce que je suis coach en développement personnel aussi. Je suis conseillère en insertion professionnelle. Voilà. Du coup, j'ai fait 2 ans et demi de psychologie aussi. Du coup, moi, j'ai commencé à suivre un autre chemin et c'est le chemin de l'accompagnement. C'est ce que j'ai envie de faire. Et là, je passe la main à mon fils qui danse avec moi depuis tout petit, en fait. C'est un très, très bon danseur qui est en fac à l'université des Staps à Le Mans. Et c'est lui qui prend la relève déjà le cours de vendredi soir à Laval. Et les autres cours, pour l'instant, j'ai ouvert. On va attendre, on va faire ça, on va reprendre petit à petit, quoi. Tout le monde a un cours d'essai.
Oui.
Voilà, où ils peuvent venir et découvrir avant de prendre la décision de s'inscrire ou pas. J'aime bien que les personnes puissent vraiment savoir où elles s'engagent.
Oui.
Et ils peuvent venir faire un cours d'essai.
Et oui, pourquoi ne pas essayer si cette interview vous a donné envie? On le rappelle, donc tous les cours de danse de Top Brésil à Laval, en tout cas, sont dispensés le vendredi soir. Et puis aussi à noter, peut-être, en tout cas, avez-vous prévu d'aller les voir? La compagnie de spectacle Top Brésil propose des spectacles justement pour la nouvelle année, pour fêter le réveillon le 31. Eux, pour l'instant, étaient maintenus en tout cas au moment de l'interview. Une petite pause musicale, Let It Go, Fada Freddy, et on revient juste après avec les nouveaux films en salle demain, mercredi.
Eu nasci de bin panga dem babai Warnga pas Vai dem dojo Do sonu digi dinga dem dojo
There was a time I had worked out a plan To get what I want right here in my hand My plans fell through as they tend to do I had to laugh and let it go
Dekil nanga dem Since the Gusmi Roti, who go back to Mudilla, would the palm or so? Since the Gusmi Roti,
I walked away in the very next day. Guess what I found as if it were plain? Just what I thought had been out of reach. All came back to smile at me.
All these dreams, they trip.
Matei. Oui, c'est beau, c'est Fada Freddy, Let It Go, issu de son album Gospel Journey, évidemment. Album enregistré en 2016. Et on passe comme tous les mardis à notre chronique cinéma. Chronique cinéma proposée par Audrey Bénès de l'association Atmosphère 53.
Bonjour l'autre radio, bonjour à tous. Pour cette semaine cinématographique du 8 décembre 2021, l'association Atmosphère 53, association de cinéma en Mayenne, vous propose un nouveau film coup de cœur. Et ce coup de cœur cette semaine, c'est Compartiment 6. C'est un film finlandais du réalisateur Juho Kuosmanen, qu'on avait déjà repéré en 2016 pour son film Oli Maki, qui avait déjà reçu un prix Un Certain Regard au Festival de Cannes, donc en 2016. Et là, il revient cette année avec un film qui a reçu également le Grand Prix au Festival de Cannes en 2021, c'est donc Compartiment 6. Dans Compartiment 6, c'est une jeune Finlandaise qui prend un train à Moscou pour se rendre sur un site archéologique tout au nord, en mer Arctique, à Mourmansk, exactement, pour y découvrir des pétroglyphes. En effet, elle est étudiante et elle rêve de devenir archéologue. Et elle entreprend ce long voyage, voyage qui durera d'ailleurs tout le long du film, toute seule. Aussi pour tourner la page d'une histoire amoureuse qui était devenue un peu douloureuse. Et dans ce train, elle a donc un compartiment à elle et elle est contrainte de partager son compartiment avec un jeune russe, assez rustre et bien porté sur l'alcool, qui lui fait route vers un complexe minier pour aller gagner sa vie. Et d'ailleurs, pour aller gagner sa vie pour la première fois. Et donc, c'est ces deux êtres, a priori, extrêmement différents, voire opposés, qui, a priori, semblent pas avoir grand-chose en commun, qui vont, du coup, partager un espace réduit. Et d'ailleurs, leurs premiers échanges vont être assez sommaires, voire hostiles. Mais petit à petit, ils vont s'ouvrir, ils vont se confier, et puis leur fragilité va affleurer. Et même avec cette fragilité va affleurer aussi surtout une attirance imprévue et spontanée de ces voilà parmi alors qu'ils se croyaient assez voués à la solitude. Et du coup c'est vraiment on sent petit à petit comme ça cette complicité, cette attirance qui va monter. C'est bien sûr, donc vous l'avez compris, un film qui a tout du film romantique, mais qui a tout des grands films romantiques où du coup les choses sont subtiles, sont finement amenées et viennent comme ça de façon assez fine et douce petit à petit. Et c'est vraiment une ode vraiment sublime à l'éphémère et à l'inconnu aussi, hein, puisque quand on entreprend un voyage, évidemment, on ne sait pas forcément ce qu'on va y trouver. Et évidemment, les pétroglyphes qu'elle y cherche à la fin du film n'ont pas grande importance, mais c'est vraiment évidemment le voyage qui a toute son importance. Et donc cette ode à l'éphémère et à la spontanéité prend surtout écho dans nos vies extrêmement organisées, rythmées et technologiques du moment. Et c'est pas un hasard si le film là se passe en 1996, donc 7 ans seulement après la chute du mur. Donc on est vraiment dans une Russie post-soviétique encore toute neuve à l'heure où Internet et les smartphones n'existaient pas encore. Et donc où la rencontre impromptue et les regards longs pouvaient encore être si spontanés et imprévisibles. Et donc c'est vraiment un film très, très joyeux et plein d'optimisme sur la possibilité de la rencontre, sur la quête évidemment de soi et de l'autre. Et voilà, une ode à l'aventure et à la recherche de l'inconnu, ce qui peut-être manque un peu à nos vies, bien rythmées et bien carrées. Donc voilà, je pense que c'est un film qui fait profondément du bien, qui ravive comme ça quelque chose de la douceur spontanée et du voyage et du mouvement. Et ça aussi, c'est quelque chose dont on a bien, bien besoin dans nos vies sédentaires. Alors voilà, c'est un film qu'on aime beaucoup et qu'on vous recommande tout à fait chaudement. Vous pouvez le découvrir au cinéma Le Palace à Château-Gontier ou encore au cinéma Yves Robert à Évron. On vous souhaite de très très bons visionnages et une très belle semaine.
Merci, belle semaine également Audrey, évidemment, avec une prochaine chronique proposée les mardis, mardi prochain dans cette émission. Et puis ça y est, on a eu un petit faux départ hier, mais c'est bon, commence cette semaine le feuilleton autour de la Compagnie des Deux Rives, la plus ancienne troupe de théâtre de Château-Gontier, qui propose tous les mardis soirs un atelier adulte au Rex, la compagnie qui fêtera ses 38 ans l'an prochain, l'occasion justement d'un petit retour en arrière au moment de sa création.
Moi, je m'appelle Pascal Feuillet. Je suis, on va dire, tombée dans le théâtre en la saison 84-85. Et puis, je me suis dit que j'allais pas en ressortir parce que ça me plaisait beaucoup. Et voilà, là, j'ai suivi ainsi l'histoire de la Compagnie des Deux Rives qui donc a été créée en 1984. À cette période-là, d'ailleurs, c'était l'explosion de création des troupes amateurs, puisqu'il y en avait eu environ 25 à se créer entre 82 et 84. 25 en 5 ans, enfin sur 5 années. J'ai pris la présidence de la compagnie, alors je ne sais plus, ça fait déjà 3-4 ans, enfin suite à un désistement de la précédente. Après, c'est vrai que c'est très difficile, dans chaque association d'ailleurs, de trouver des successeurs pour représenter l'association. Les bureaux sont très compliqués. Mais bon, on peut trouver des candidats aussi, ce qui a été le cas cette année quand on a refait une assemblée générale. Donc à l'époque, existait à Château-Gontier ce qui était appelé l'Office social et culturel. L'animateur de cet Office social et culturel était Michel Auger. Et Michel Auger avait pratiqué le théâtre dans un premier temps, et puis son parcours au niveau culturel est assez intéressant. Il a eu envie tout simplement de lancer quelque chose. Enfin, il disait quelque chose au départ. C'est devenu... c'était en 82, je crois, en octobre 82, où, suite à l'annonce presse qu'il a fait paraître... se sont présentés, alors ça devait être 13 femmes et 5 hommes. Et l'aventure a débuté à ce moment-là. Petit à petit, bon, l'atelier, c'était pas, au départ, ça n'était pas envisagé, il n'y pensait même pas, quoi. Mais petit à petit, déjà tous étaient novices. Hein. Ceux qui se présentaient avaient vraiment envie de faire du théâtre, de découvrir. Et puis, ils sont restés. Il y a eu des départs et des arrivées au fur et à mesure des années, mais un noyau dur pendant de nombreuses années. Et en fait, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait pas de théâtre des Ursulines. On avait, pas forcément proposition d'autres loisirs. Et donc, ceux qui se sont impliqués là étaient vraiment motivés.
Et plus personnellement, du coup, comment est-ce que vous avez mis justement un pied dans le théâtre ?
Eh bien, par l'intermédiaire d'une amie qui était déjà dans la troupe. Et à l'époque, on n'était non pas constitué en association, en fait, on était intégré au sein de l'Office social et culturel, au même titre qu'il y avait les arts plastiques, la chorale interlude, enfin voilà. En fait, on a créé notre association en 97, lorsque le carré a changé de statut. On irait quand même resté longtemps sous la houlette, entre guillemets, de Michel Auger pendant X années, puisque lui, il est parti en 1999, donc voilà. Mais le fait de créer une association, non, ça n'a pas changé, on a continué nos habitudes. Bon, le départ de Michel a fait que on a pratiqué un petit peu différemment, quoi. Il y a eu une petite transition sur 2 ans où la naissance d'un leader, c'était compliqué, quoi. Ça a été compliqué. Et puis, petit à petit, ça s'est installé. Voilà, et on a trouvé une metteur en scène et qui s'est impliquée. On a continué nos créations sur un certain nombre de... à peu près environ une par an, quoi.
Environ une par an, évidemment. Et parmi les événements marquants, le marathon Molière en 1998, avec le jeu ininterrompu des 33 pièces de Molière dans toute la ville de Château-Gontier. Ou encore quelques années plus tard, en 1994, les 10 ans de la compagnie lors de la Chalibaude dans un parcours déambulatoire ponctué donc de brefs scénettes extraits de toutes les pièces qui avaient été jouées jusque-là. Conclu évidemment par le feu de la Saint-Jean. Et demain, alors on va approcher petit à petit de l'actualité de la compagnie et on entendra un comédien investi depuis déjà de nombreuses années. C'est la fin de notre émission L'Agité du Local pour aujourd'hui, mardi 7 décembre. À suivre à l'antenne à 19h, il y aura les rendez-vous de l'APES autour du Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement, le CPIE Mayenne-Bamen, qui sera interrogé ce soir, suivi à 20h de The Voice of Cassandre et à 21h de Frères de Chaussures. Passez une très bonne journée et à demain.